Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Fabrice Clément, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob un livre, La fabrique des croyances chez l'enfant. Vous travaillez dans le champ disciplinaire qui réunit sciences sociales et anthropologie, philosophie et sciences cognitives. Vous êtes professeur à l'Institut des sciences de la communication et de la cognition de l'Université de Neuchâtel. Alors, ce travail sur l'enfant, est-ce que c'est tout à fait ciblé par rapport à vos recherches dépoussiérer ce concept de la fabrique des croyances? Ça se met en place déjà chez l'enfant.
Oui, alors en fait, c'est vrai qu'il est l'enfant est à la fois. Enfin, le livre peut se lire de deux façons. Ça peut se concevoir comme une synthèse de toute une série de travaux contemporains sur le développement de l'enfant, la façon dont il fait sens de son environnement, dont il fait confiance à autrui pour tisser peu à peu son système de croyances, son système de connaissances. Et puis ça peut se lire aussi, et c'est un peu le sous-titre qui ne figure pas forcément tout au début, mais juste après la première page, une histoire naturelle de la croyance, c'est que par ce détour, par l'enfant, j'essaye, comme vous le dites très justement, de mieux comprendre dans le fond ce que c'est que ce concept, ou cette notion plutôt de croyance, qui est utilisée souvent dans des sens assez différents, et je m'en étais rendu compte en discutant avec des collègues de disciplines différentes, ou parfois on pouvait discuter assez longtemps et puis se rendre compte, après de longs moments comme ça, quand on n'était pas en fait en train de parler de la même chose. Et par exemple, les exemples qui viennent à l'esprit ne sont pas les mêmes si vous discutez avec un historien des religions, si vous discutez avec un sociologue, avec un philosophe ou un anthropologue. Ils ne voient pas tout de suite, ils n'ont pas en tête le même type d'exemple type, si vous voulez, lorsqu'on parle de croyance. Et ça m'a beaucoup intrigué. Et le pari, si vous voulez, c'est que par ce détour, par l'enfant, on arrive à mieux cerner la formation progressive de ces différents types de représentations que l'on tient pour vrai, en quelque sorte.
Alors, comment pourriez-vous nous présenter cette histoire du concept des croyances? Qu'est-ce qui est tenu pour vrai, déjà pour l'enfant?
Alors, j'arrive en fait, un peu malgré moi, si je puis dire, en approfondissant cette acquisition progressive, à l'idée que, si on veut parler vraiment strictement, que l'enfant, dans un certain sens, il n'a pas de croyance au sens strict du terme pendant les premières années de sa vie. Parce que pour avoir une croyance, il faut avoir cette conscience que la représentation que l'on a, que l'on tient pour vrai à un moment donné, elle pourrait être fausse, ou du moins on a des éléments que l'on pourrait amener pour soutenir ce contenu en discutant avec quelqu'un d'autre, etc. C'est ce que j'appelle cet écart qu'il y a entre l'attitude que l'on peut avoir par rapport à un certain contenu de croyance et ce contenu lui-même. Et pendant plusieurs années, 3 ans et demi, 4 ans, l'enfant, en fait, ne fait pas forcément cette distinction entre le contenu de ce qu'il tient pour vrai et son attitude. Et ce que j'appelle un peu l'hypothèse du velcro, c'est que le monde et sa représentation ne font qu'un, en quelque sorte. Et ça prend beaucoup de temps à l'enfant pour se rendre compte que, dans le fond, c'est pas toujours le cas. On peut avoir une certaine idée du monde, et cette idée peut être très différente chez l'autre, et on peut avoir eu une idée du monde il n'y a pas si longtemps, que pour différentes raisons, on a changé. Et donc, il y a cet écart toujours un petit peu angoissant. Le livre démarre sur cette angoisse métaphysique. À partir du moment où on s'est rendu compte que, justement, nos représentations et le monde ne sont pas toujours collés en quelque sorte, ça crée toujours ce petit doute potentiel. Est-ce que la manière dont je considère le monde est en fait la bonne, quoi? Ou est-ce que peut-être on me mène en bateau, ou je sais pas, j'ai été élevé dans un certain environnement et voilà, on m'a fait avaler toutes sortes de choses, peut-être que c'est faux. Enfin, vous voyez, cette espèce de petit doute qui naît grâce ou à cause de cet écart qui semble apparaître autour des 4 ans, en fait.
Exactement, vous avez parlé des 4 ans. Alors, il y a des temps observés, des paliers de l'acquisition des croyances. Et quels sont ces paliers? Vous avez parlé de 4 ans. Qu'est-ce qui s'opère pendant ces 4 ans? Est-ce qu'il y a une relation avec le langage? Et puis, il y a aussi un autre palier, 7 ans. Ça aussi, c'est un moment incandescent dans l'univers de la croyance aux choses de l'enfant.
Alors pour le 4 ans, enfin autour des 4 ans, 4-5 ans, c'est probablement ce qui a donné lieu au plus grand développement dans la psychologie de l'enfant, je dirais ces 30-40 dernières années. Et c'est lié en fait à une expérience qui a eu un très très grand succès, qu'on appelle parfois l'expérience de la fausse croyance, dans laquelle vous organisez une sorte de petite scénette qui peut être... des photos, peut-être un film, peut-être des acteurs réels, dans laquelle vous voyez que un personnage, par exemple, range son jouet à un certain endroit, puis il s'en va, et pendant qu'il n'est pas là, un autre personnage va changer l'objet de place. Et donc, vous, en tant qu'enfant qui observez cette scène, vous savez, si je puis dire, que l'objet, par exemple, est dans le nouvel emplacement, qu'il a été déplacé, mais celui qui est sorti ne peut pas avoir cette information puisqu'il ne l'a pas vu. Et en fait, jusque vers l'âge de 4 ans, les enfants ont une très forte tendance à répondre que lorsque le personnage qui n'était pas là et qui revient chercher son jouet ou son chocolat ou je ne sais quoi, eh bien, il va aller le chercher là où il est. Là où, non pas où il l'a mis, mais là où il se trouve, là, dans la réalité qui, pour l'enfant, est la réalité de tout le monde, en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas encore cet écart entre ce que l'autre a comme vision de la réalité et sa propre vision de la réalité. Donc c'est un petit peu cette expérience qui a donné vraiment lieu à énormément d'articles qu'il est très facile de répliquer. Si vous avez chez vous, chez vos auditeurs, vos auditrices, ont chez eux un enfant de 3-4 ans, c'est très facile à faire et c'est très frappant. Moi j'avais de la peine à y croire. En fait, je l'ai fait des centaines de fois avec des petits-enfants et c'est à chaque fois ce phénomène étrange qu'on voit bien aussi, par exemple, quand les enfants jouent à cache-cache. Un enfant de 2 ans et demi qui joue à cache-cache, c'est souvent hilarant pour les gens qui l'observent, puisque il va se cacher, entre guillemets, et puis en fait tout le monde, enfin, on voit qu'il sort la moitié de son corps, mais lui, sa tête, elle est derrière un arbre, par exemple, et il ne voit pas la personne qui va le chercher, et donc il dit « ça y est, je suis prêt, tu peux venir me chercher », en étant pas en possibilité, vraiment au sens cognitif du terme, de se dire non mais lui, depuis son point de vue, il va me voir puisqu'il y a la moitié de mon corps qui sort de l'arbre. Donc c'est là, se baser sur son propre point de vue, sur sa propre représentation, pour se dire voilà, les autres, ils voient comment on partage le même monde représentationnel ou le même monde tout court. Donc ça, c'est vraiment une étape extrêmement importante. Pour les 7 ans, c'est beaucoup plus délicat. Les 7-8 ans, pour être tout à fait franc, il y a différentes hypothèses, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est un âge où dans beaucoup de... Alors déjà à l'époque romaine, mais y compris dans d'autres civilisations, les adultes vont dire, par exemple, dans des cultures où on enseigne très peu aux enfants dans les premières années, où on pense que de toute façon ils ne comprennent rien, c'est vers 7-8 ans justement qu'on va se dire « bon ben maintenant, c'est le moment, on peut commencer à leur donner un enseignement explicite. » Donc, ce qui se passe exactement, c'est pas très très clair. C'est probablement lié à la maturation d'un certain nombre de capacités qu'on appelle parfois exécutives, le fait de pouvoir se représenter plusieurs choses à la fois, de pouvoir prendre un récit comme un exercice, comme une fiction pour s'exercer à raisonner sur quelque chose. Il y a vraisemblablement quelque chose qui se passe, mais la petite révolution des 7-8 ans est beaucoup moins comprise aujourd'hui que celle des 4 ans, on va dire.
Comment pourriez-vous représenter ce sentiment de croyance, de ce qui est tenu pour vrai, et aussi peut-être le parallèle entre vrai et réel. Lorsque nous rêvons la nuit, nous avons un sentiment de réalité. Nous vivons des histoires qui sont complètement oniriques, fictives, notre le produit de notre imaginaire ou de je ne sais quoi. Interne, et nous avons un sentiment de réalité. Et dans la vie aussi, nous adhérons de façon passionnée, sans l'ombre d'un hiatus, que la chose, que ce que nous vivons est réel. D'où vient cette sécurité dans l'idée de croyance?
Oui, c'est une excellente question. C'est une question, en fait, que Hume, le philosophe, posait déjà il y a plusieurs siècles, hein, et qu'il mettait en exergue en insistant sur, exactement comme vous le mentionnez, cette distinction qui existe pour nous entre quelque chose que l'on imagine, une fiction, hein, on est en train de se dire, je ne sais pas, et si je gagnais au loto, et puis le moment où vous gagnez au loto et vous commencez à, cette fois-ci, à dépenser votre argent pour je ne sais quel voyage ou domicile. Et en fait, il avait déjà mis en évidence, en tant qu'hypothèse, quelque chose de l'ordre d'un ressenti particulier, d'une manière d'être affecté en quelque sorte par la représentation. Ce n'est pas la même chose à la première personne de imaginer que, je ne sais pas, on pourrait aller en vacances, je ne sais où, en Espagne, et être en vacances en Espagne. Et en fait, cette question est restée un peu théorique pendant très longtemps, et puis récemment, on a essayé de regarder ça de plus près avec un de mes collègues neuroscientifiques, et on s'est aperçu qu'en fait, il semble exister, c'est encore des choses un petit peu sous l'ordre d'une hypothèse, mais il semble exister quelque chose de l'ordre d'un signal interne. En gros, vous allez être face à cette réalité, comme vous disiez, face à un certain environnement, vous allez accumuler un certain nombre d'informations par rapport à cet environnement, et votre cerveau a l'air de faire une sorte de calcul. Et à un moment donné, lorsque les informations dont il dispose sont suffisantes pour prendre une certaine décision, ça dépasse un seuil. Et là, il y a après 150 millisecondes, 200 millisecondes, un signal particulier dans le cerveau qui est comme un indice pour l'individu qui va prendre sa décision que là, ça y est, il a assez d'informations pour être suffisamment sûr de ce qui se passe pour agir, pour prendre telle décision, pour effectuer tel type d'action. Et donc, il semble vraiment y avoir un signal qui se mesure, donc avec un signal électrique bien, bien spécifique, qu'on essaye maintenant un petit peu de tracer de façon plus précise, mais qui serait donc lié à une certaine densité, une qualité de l'information que vous captez sur votre environnement. Donc, il ne s'agit bien entendu pas de quelque chose de conscient. Il s'agit, d'un long processus évolutionnaire qui joue, si vous voulez, sur la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir prendre une décision, sur la qualité des informations pour pas que vous fassiez trop de bêtises, etc. Et quelque chose comme, justement, une mécanique interne de certitude s'est développée qui se base sur la quantité et la qualité des informations et qui ensuite déclenche ce petit signal qui est alors là, après 200 millisecondes, perçu consciemment par le sujet, sans qu'il sache forcément très bien de quoi il s'agit, mais ça émerge à la conscience très brièvement et ça vous donne cette espèce de certitude, en tout cas, tranquillité pour adopter un certain type d'action. Donc, il semble y avoir derrière ce genre de phénomène toute une mécanique cérébrale assez complexe qui est liée à la prise d'information et à l'évaluation, si vous voulez, de la qualité, entre guillemets, de cette information, pour ne pas prendre des décisions trop rapides et en même temps pas non plus être pris dans une sorte d'évaluation infinie de l'environnement qui bloquerait toute prise de décision. Donc, toujours l'évolution fonctionne un petit peu comme un sorte de trade-off, comme disent les anglo-saxons. Hein. Vous devez jouer entre une exploration infinie du monde et puis exploiter les informations que vous avez et prendre une décision souvent très rapide. Donc probablement que c'est un des systèmes qui a été trouvé par Mère Nature, si je puis dire, pour nous aider à prendre des décisions, si ce n'est très bonnes, en tout cas pas trop mauvaises, quoi.
Si je peux me permettre juste une image, alors j'imagine, oui, par exemple, le réel et le vrai comme deux territoires, deux géographies. Est-ce que nous pouvons superposer les deux? Donc réel et vrai, est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose, un hiatus ou une grosse différence entre ces deux univers, le réel et le vrai?
Ouh là là, là, je vous posais une question
pardon, alors.
extrêmement profonde, qui est passionnante. Alors, ça dépend tout petit peu comment. On aimerait bien, je dirais, d'un point de vue pragmatique, hein, du point de vue de notre adaptation à notre environnement, si je prends une perspective plus naturaliste, il doit bien y avoir un certain lien, parce que imaginez qu'il y ait une dissociation totale entre ce que vous appelez le réel et puis la vérité, qui serait la représentation par les individus, voilà, ou par un collectif de ce réel, et que ces deux soient en totale dissociation, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de prises de décision, etc., qui se baseraient sur une représentation beaucoup trop éloignée de cet environnement, de cette réalité, on ferait forcément quelques grosses bêtises, et il est fort possible qu'au bout d'un moment, l'espèce totale s'écroule. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a un rapport, grosso modo, c'est en lien, c'est les deux corrèlent plus ou moins, mais il suffit de regarder l'histoire des sciences pour montrer que voilà, il y a eu quand même beaucoup de révolutions paradigmatiques. On a longtemps pensé que le monde fonctionnait de telle façon, en fait, il ne fonctionne pas exactement de cette façon, et puis on avance pas à pas, mais en gardant en tout cas, je pense, cet horizon de vérité, c'est qu'on a quand même cette impression qu'on élimine des solutions qui sont moins bonnes que d'autres et qu'on va quand même en direction d'une adéquation de plus en plus forte, mais elle sera jamais totale, je pense. On est quand même très limité de ce point de vue-là. On est une espèce parmi beaucoup d'autres dans un environnement d'une complexité infinie.
Tout à fait, c'est tout à fait recevable, et puis ça, je suis tout à fait d'accord avec humblement avec ce que vous dites. Alors, comment croyons-nous? Est-ce que nous croyons à ce qui est vérifié, à ce qu'on nous a dit, est-ce que nous croyons l'identité, ça vient plus tard quand on est plus âgé. Mm-hmm. Le rôle des croyances dans nos existences et dans notre comportement. Alors il y a ce magnétisme de la croyance pour la place de l'être parmi les autres.
Oui, alors pour répondre à cette question qui est là aussi assez complexe, j'ai essayé de... C'est un petit peu justement à travers ce parcours, à travers le développement de l'enfance, que cette manière de classer en quelque sorte les différents croyances, ou je dirais même plus largement les choses que l'on tient pour vraies, il me semble que en fait tout ce que vous avez dit est vrai, mais dans des contextes bien spécifiques. Par exemple, il y a un certain nombre de choses que l'on tient pour vraies parce que on est équipé biologiquement pour traiter cette réalité dont on parlait tout à l'heure d'une certaine façon, et on va avoir toute une série de ce que j'appelle des attentes naturelles qui semblent se trouver dans les quatre coins du monde et qui se développe assez spontanément sans qu'il y ait besoin d'un enseignement explicite de la part des parents, par exemple, ou de la part des adultes. Donc, en gros, vous allez observer votre environnement, qu'il soit physique, biologique, que ce soit d'autres êtres humains, et vous allez être capable assez rapidement de faire sens de tout cela et d'avoir un certain nombre d'attentes sur ce qui va se prédire, de faire des prédictions, si vous voulez, d'attentes sur ce qui va arriver, et donc de faire des prédictions, sans forcément un enseignement explicite. Ça, c'est un niveau extrêmement basique, si vous voulez, mais qui est très important, parce qu'il nous permet de nous en sortir dans des quantités de situations sans avoir besoin d'y penser, autrement dit, et sans avoir besoin d'un apport extérieur, si vous voulez. Et sur cette base, cette espèce de couche de fond, là, vont ensuite s'étager d'autres formes de tenue pour vraie, dont certains qui sont, alors cette fois-ci, nettement plus tributaires d'un contexte social où vous allez apprendre toute une série de choses qui appartiennent à votre culture, mais là encore, qui ne sont pas forcément acquises de façon consciente. Hein. Vous allez vivre dans un certain milieu, vous allez vous rendre compte par toute une série de réactions, par exemple affectives de votre environnement, qu'il vaut mieux faire ceci que cela, qu'il vaut mieux aimer ceci que cela, qu'il vaut mieux être intéressé par ceci que cela. Et donc cette couche-là, que j'appelle les attentes sociales, elles sont aussi très peu accessibles à votre conscience. Parfois, oui, quand vous grandissez, et peut-être déjà justement vers les 7 ans, et plus tard encore à l'adolescence, vous allez remettre en question une partie de ces choses qui jusqu'à maintenant vous teniez pour vrai. Et sur cette couche encore se greffent alors ce que j'appellerais des croyances en tant que telles, des croyances réflexives qui, elles, sont liées à un travail de votre part où vraiment vous vous êtes dit, tiens, comment cette réalité, elle est, à qui je peux faire confiance, est-ce que telle et telle personne qui me raconte ceci ou cela est suffisamment compétente, est-ce que elle est suffisamment bienveillante. Et là, vous avez toute une phase de réflexion qui peut être beaucoup plus consciente, et à un moment donné, vous allez vous dire, bon, ben, étant donné ce que je sais de mon environnement, ce que je sais de telle et telle autre personne, je vais considérer que ceci est vrai, avec un certain niveau de probabilité. Et puis, il y a encore une autre couche, alors, qui sont aussi réflexives, qui sont aussi conscientes, et qui renvoient plus, je dirais, à des choses de l'ordre du symbolique. Ça peut justement être les croyances religieuses, où vous faites un effort, souvent personnel, de recherche de sens, mais où ce que vous allez considérer comme vrai est transmis par autrui, souvent transmis par une autorité, une institution dans laquelle vous avez confiance, ou dans laquelle vos proches ont confiance, mais où vous n'allez pas vraiment ni faire le travail de compréhension seul, et où vous allez d'ailleurs probablement jamais arriver à une compréhension totale. Hein, vous allez être dans un milieu où vous allez accepter un certain nombre de choses sans les comprendre tout à fait, on appelle ça des mystères, par exemple, et on pense qu'un jour, peut-être, on y arrivera, ou peut-être dans une autre vie, je ne sais pas. Mais on admet un certain nombre de réalités sans les maîtriser totalement. Alors... Donc, on a quatre couches, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que, parler de croyance, à chaque fois, il faut se dire, mais là, je suis à quelle couche ? Est-ce que je parle d'une attente naturelle, qui est très difficile à modifier ? Est-ce que je parle d'une attente héritée, mais qui peut éventuellement être transformée, d'une croyance réflexive qui, elle, se transforme beaucoup plus aisément ? Ou alors cette croyance symbolique qui peuvent avoir une importance énorme pour soi, même si on ne les comprend pas totalement.
Alors justement, par rapport à ces croyances qui seraient basées sur des faits peut-être entre guillemets illusoires, comment est-ce que des fake news peuvent subsister, prospérer, continuer à être diffusées et convaincre passionnément, souvent de façon fanatique, en dépit de la preuve des faits?
Oui, alors ça, c'est une bonne question. Le problème, c'est justement cet accord ou cette espèce de niveau où on va s'accorder sur les faits. Et la plupart du temps, ces faits, cette espèce de base sur laquelle un groupe social va s'accorder pour dire voilà comment le monde est, comment cette réalité dont on parlait tout à l'heure est, eh bien on ne peut pas y arriver seul. Hein, on est obligé de s'appuyer sur des experts, on est obligé de passer par des médiations. C'est devenu d'ailleurs tellement complexe qu'il est extrêmement difficile parfois de comprendre certaines des analyses des scientifiques. Et donc il y a un phénomène de confiance fondamentale qui est à l'œuvre. Hein, vous devez déléguer en fait la preuve, vous devez déléguer l'accès direct entre guillemets au fait à quelqu'un d'autre. Et donc cet écart entre le moment de la preuve et l'acceptation peut être parfois très très grand avec beaucoup de laboratoires, beaucoup d'institutions, beaucoup de gens, beaucoup d'intérêts aussi peut-être industriels, etc. Et à partir du moment où cette croyance en quelqu'un vacille. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années par rapport à beaucoup d'institutions, entre guillemets, dites officielles. Hein, il y a une sorte de méfiance par rapport à ce qui peut être dit par ces sources officielles. Le risque, effectivement, qu'une fois que cette confiance soit perdue, vous commencez à mettre en question toute cette espèce d'ensemble de phénomènes qui étaient considérés comme des faits sans que, individuellement, beaucoup de gens puissent les vérifier. Et cette mise en question de l'autorité au sens large du terme, j'ai presque envie de mettre une A majuscule, peut justement tout d'un coup ouvrir des brèches et autoriser toute une série de personnes à faire leur propre recherche, si vous voulez, à développer leurs propres observations, leurs propres théories. Et lorsque vous êtes tout d'un coup en rupture par rapport à une explication, je dirais, officielle du monde, mais que vous gardez cet appétit de compréhension, qu'en plus vous avez des réseaux sociaux qui très rapidement vont vous ouvrir ce champ d'exploration, parfois un peu farfelu, mais souvent assez sérieux et avec beaucoup de travail d'observation, eh bien, de tout devient possible, quoi. Vous pouvez vraiment vous précipiter ou, disons, vous tomber peu à peu dans un système d'explication un peu parallèle, si vous voulez, où les gens vous parlent non plus en tant qu'experts, mais en tant que gens comme vous et moi qui ont réfléchi et qui vous donnent, apparemment en tout cas, des moyens de faire vos propres vérifications. Et c'est impressionnant comme l'intuition, par exemple, la perception personnelle, le fait qu'il s'agit d'une expérience que l'on peut soi-même réaliser, en quelque sorte, devient extrêmement important puisque la confiance est rompue par rapport à des expériences qui nécessitent tout un bagage théorique, des instruments scientifiques très sophistiqués auxquels monsieur et madame tout le monde ne comprennent pas grand-chose. Donc il y a un retour à l'expérience personnelle. Et vous avez, par exemple, ces gens qui vont aller avec des jumelles au bord de l'océan faire des mesures qui apparemment semblent prouver que la Terre est plate, par exemple. Vous voyez.
Alors, vous avez parlé, Fabrice Clément, de confiance, de croyance. Est-ce que vous faites appel à l'anthropologie pour cette réflexion ? Peut-on parler de pli humain, d'un inconscient collectif ? Et est-ce que la morale ne serait pas cette base collective à laquelle l'humanité adhère et qui font un petit peu le côté symbolique des religions ?
Oui, alors il y a toute une série de recherches assez passionnantes et qui, pendant une époque, avaient donné un espoir peut-être un tout petit peu exagéré dans cette espèce de découverte d'un socle moral, si vous voulez, qui serait partagé par l'ensemble de notre espèce. Et toute une série de travaux qui montrent que effectivement les très très jeunes enfants ont certaines intuitions par rapport à ce qu'il est bien ou pas bien de faire. Alors c'est peut-être un tout petit peu exagéré comme utilisation de concept, mais il y a de très jolies expériences qui montrent, par exemple, que un enfant va préférer un personnage qui va aider un autre personnage à un personnage qui, au contraire, va lui faire du mal, par exemple, ou des choses de ce type-là. Alors, ça a donné un certain espoir en disant, tiens, il existe une sorte de morale fondamentale, donc cette espèce de base intuitive, sur laquelle ensuite des réflexions, des symbolisations, des grands récits se seraient mis en place et auraient résonné à des niveaux collectifs beaucoup plus vastes. Le seul petit problème, ça a été découvert plus récemment, c'est que dans cette morale, et ça on est bien placé en tant qu'humain pour s'en apercevoir, je dirais presque au quotidien, cette morale elle est très dépendante de l'identification d'individus comme faisant partie de son groupe ou étant extérieur à son groupe. Et les enfants très 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 jeunes, hein, même des bébés, ne sont pas du tout scandalisés si quelqu'un qui est présenté comme un out-group, comme les anglo-saxons, comme quelqu'un qui ne fait pas partie de leur groupe, est puni, ne bénéficie pas d'équité, reçoit moins que les autres, etc., etc. Et c'est même un peu frappant de se dire qu'en fait, cette morale naïve, si vous voulez, cette espèce de morale fondamentale, elle semble liée, en fait, à l'appartenance de groupe. Et ça pose quand même un petit problème, si vous voulez, si on veut s'appuyer sur cette espèce d'intuition fondamentale pour créer une morale dans un univers où, multipolarisé, multiculturel, où les groupes doivent s'entendre les uns avec les autres, où là, il faut réfléchir, cette fois-ci de façon beaucoup plus réflexive, je pense, pour essayer de sortir ces intuitions d'une pure application à un groupe particulier, ou du moins d'essayer de peut-être générer une impression que tous les êtres humains, par exemple, et même peut-être les autres espèces vivantes, font partie de ce groupe et doivent rentrer dans l'application de cette morale intuitive. Mais dès que vous donnez la possibilité de mettre quelqu'un en dehors du groupe, eh bien, il semble que vous ouvrez la possibilité à des comportements, alors tout sauf moraux, si vous voulez. Donc, vous voyez, il y a un étrange mélange entre l'identification sociologique, si vous voulez, cette personne, elle est comme moi, elle n'est pas comme moi, et l'application d'une morale, si vous voulez, qui repose beaucoup sur de l'empathie, sur le fait de ressentir ce que l'autre ressent. Par exemple, quelqu'un qui est battu, on va ressentir ça à partir du moment où on le considère comme étant un comme nous. À partir du moment où il sort de cette de cet ensemble du même, si vous voulez, il est comme moi, eh bien, cette résonance-là éthique semble totalement éteinte. Et c'est très intriguant et un peu inquiétant dans le sens où on ne pourrait pas s'appuyer sur cette espèce d'intuition fondamentale pour créer une morale, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui collective, quoi.
Fabrice Clément, à la lumière du livre que vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob, La fabrique des croyances chez l'enfant. Alors, que peut-on penser des croyances mineures, genre croire au Père Noël, croire à la petite souris? Et pourquoi? Et quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que ça survit de façon très florissante dans diverses sociétés?
Alors là encore, c'est une question superbe qui a beaucoup fait réfléchir, y compris des anthropologues comme Claude Lévi-Strauss ou d'autres qui ont essayé de mettre à jour les raisons, si vous voulez, de cette croyance. Alors moi, je suis pas très fort pour l'explication fonctionnaliste. Hein, pourquoi est-ce que ça a émergé? Mais il se trouve qu'à partir du moment où ce type de représentation émerge, on peut observer un certain nombre de phénomènes intéressants. Et, par exemple, le fait que pour la croyance au Père Noël, mais je pense que pour la croyance à la petite souris ou d'autres, c'est un peu le même phénomène, on retrouve cette idée que j'appelle une méta-croyance collective, qu'il est bien d'y croire, mais jusqu'à un certain âge. Et souvent cet âge, d'ailleurs, on retrouve un peu ces 7 ans, ces 7-8 ans, et en fait, on retrouve le même âge dans certains sondages qui ont été faits aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Donc, il y a une sorte d'accord collectif sur le fait que c'est bien d'y croire, mais pour une période donnée. Donc en fait, on va créer, alors ça marche pas pour tous les enfants, mais selon l'attitude d'une très grande majorité des enfants, on va créer une sorte de dispositif social souvent assez sophistiqué qui va légitimer cette croyance en quelque chose de merveilleux, hein, ce personnage qui arrive et qui offre des cadeaux. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir que à partir du moment où les enfants n'y croient plus, et là les mécanismes sont assez discutés, hein, ce qui se passe exactement et qui font qu'ils vont plus y croire, il y a effectivement quelque chose de l'ordre d'un mûrissement, de meilleure performance, si je puis dire, cognitive, et tout d'un coup ils vont s'apercevoir de certaines contradictions, mais il semble que ça soit beaucoup plus souvent un phénomène de témoignage, justement, mais pas forcément par des adultes, mais plutôt par des petits copains, qui ont 8-9 ans, justement, et qui, à un moment donné, arrivent, et puis qui, lorsque l'enfant dit « Ah ben moi, je suis tout content, je vais recevoir tes trucs du Père Noël », éclate de rire en disant « Ah, mais tu y crois encore, qu'est-ce que tu as ?» etc. Mmh. Et là, tout d'un coup, boum, la chose s'écroule. Mais ce qui est assez fascinant de voir, et on avait fait des entretiens là autour, c'est que les enfants de 9-10 ans, hein, qui n'y croient plus, mais plus depuis très longtemps, disent tous, enfin peut-être qu'ils ont peut-être un tout petit peu enjolivé la chose, mais disent tous qu'ils n'ont pas été et ils ne vont pas raconter ça à des enfants de 6 ou 7 ans. Et ils entrent tout d'un coup dans cette espèce d'autre catégorie qui font partie du monde de ceux qui font vivre l'illusion. Hein, ils font partie du... ils vont sur l'autre côté du miroir, si vous voulez, c'est eux qui vont agiter les dispositifs et faire croire à des plus petits à ce phénomène-là. Et il y a quelque chose de jubilatoire, aussi bien chez les jeunes enfants, hein, qui se disent « Ah, ça y est, maintenant je sais, et moi je vais jouer ce rôle avec les parents. » Et du côté des parents, on a très souvent cette description, on avait fait par exemple, on leur avait demandé de faire un petit graphique chronologique de 0 à 12 ans, en montrant les différentes étapes que leurs enfants avaient parcouru par rapport à cette croyance au Père Noël. Et on a eu à plusieurs reprises, entre, disons, 3 et 7 ans, des descriptions comme ça, avec des termes que les parents utilisaient dans « quelle merveilleuse période hein, », la période du merveilleux, avec une sorte de nostalgie assez extraordinaire de ce moment où les enfants étaient dans ce monde fantastique des entités un peu bizarroïdes qui réalisent des désirs, en gros. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la fonction sociale de tout ça. Pour être tout à fait franc, pour moi, ça reste un petit peu mystérieux. Mais à partir du moment où ce genre de croyances émerge, il y a toute une série de conséquences affectives. Alors, il y a aussi le marketing, bien entendu, qui s'est lié à tout ça, qui font qu'elle risque de durer, mais elle est OK jusqu'à un certain âge. Alors, pour un observateur extérieur, c'est assez extraordinaire parce qu'on a une sorte d'expérience qui est plus une expérience de laboratoire, mais qui est une expérience géante où la plupart des gens ont vécu dans un univers dans lequel il y avait l'existence de certains individus qui n'étaient pas mis en question, et tout d'un coup, cette existence est mise en question. Donc on a, beaucoup d'entre nous ont vécu cette espèce de changement de monde assez incroyable, mais qui ne semble pas être vécu dans une sorte de drame existentiel par les enfants. Donc ça a l'air de passer comme ça. Tant que les cadeaux continuent à venir, c'est OK, quoi.
Fabrice Clément, je vous remercie beaucoup de nous avoir présenté ce livre absolument fascinant, La fabrique des croyances chez l'enfant, tout ce que l'on veut savoir, tous nos questionnements, on trouve des explications, des histoires, c'est très agréable à lire, comme cette histoire du robot à qui on va demander « cherche-moi une bière », c'est très rigolo, très intéressant, je vous remercie beaucoup, ce livre paraît chez Odile Jacob. Alors, merci à beaucoup. Bientôt pour l'explication et la présentation d'un autre écrit de votre part. Merci beaucoup,
avec
Fabrice Clément.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Musique.